Et à la veille de cet affrontement entre les Flyers de Philadelphie et le Canadien de Montréal, on a le plaisir de retrouver notre ami Daniel Brière. Bonsoir, Daniel.
Ben oui, salut mon Mario.
T'attends-tu un gros match demain, Flyers, Canadien, Flyers qui semble prendre du poids de la bête un peu, le gardien qui arrête plus de rondelles qu'en début de saison, on dirait, là?
Ouais, ça commence à se replacer. Les derniers matchs, c'est beaucoup mieux du côté des Flyers. Mais encore une fois, là, quelques Québécois du côté des Flyers qui sont toujours excités d'affronter le Canadien. Puis là, pas juste sur la glace, ce qui est intéressant, c'est que il y a des entraîneurs aussi, là, que plusieurs entraîneurs québécois derrière le banc du côté des Flyers. C'est toujours spécial en tant que Québécois d'affronter le Canadien de Montréal.
Et puisque tu parles des entraîneurs, là, je sais qu'Alain Vigneault a déjà passé le cap des 1200 matchs et devance Claude Julien de pas ben ben. Claude qui a vécu hier un 1200e match en carrière. T'as pas joué pour ni un ni l'autre, Daniel, mais qu'est-ce que ça te dit, un gars qui est capable de rester dans la Ligue aussi longtemps? Qu'est-ce que tu penses? Puis il y a différents styles. Garde et Tuchok et pas semble pas le plus apprécié des joueurs, a fait une longue carrière, mais en général, là, c'est quoi qui fait qu'un gars peut durer aussi longtemps dans la Ligue?
Ben moi, premièrement, quand je pense à ça, c'est un entraîneur extrêmement intelligent qui a été capable de survivre, capable de passer à travers plusieurs crises. Pour demeurer aussi longtemps, il faut que tu fasses des choses très, très bien. Il faut que tu sois capable de t'ajuster. Puis quand tu passes 1200 matchs, c'est plusieurs années. Ça veut dire que tu en as vu passer plusieurs. Les styles ont changé, les systèmes ont changé, l'approche des joueurs a changé. Fait que ça, là, c'est la marque de gens très, très intelligents qui ont été capables de s'adapter au cours des années.
À chaque année, Daniel, là, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit dans la Ligue nationale de hockey. On y va de nos pronostics, on anticipe des succès, on anticipe des saisons difficiles pour des équipes. Ça se déroule pas toujours comme prévu. Là, on a un court échantillon, mais on a grosso modo une quinzaine de matchs par équipe, certains 16, d'autres 14. As-tu des déceptions et des surprises dans ce jeune début de saison jusqu'ici, Daniel?
Ben un peu comme tout le monde. Écoute, tu sais, quand on pense aux Devils du New Jersey dans l'Est, je m'attendais à ce que les Devils soient beaucoup plus fringants là, que ce qu'ils ont démontré en début de saison avec l'arrivée d'un Piqué Subban, d'un Wayne Simmonds, Jack Hughes aussi, où on s'attendait peut-être un peu plus, mais lui, il va être bon éventuellement, ça on sait, il n'y a aucun doute.
Oui.
Je m'attendais à ce que les Devils soient peut-être un peu plus dangereux. Côté déception dans l'Est, pour moi, c'est le Lightning de Tampa Bay. Mais c'est encore très tôt, tu sais, ils ont seulement 13 matchs de jouer, là. Faut pas s'énerver avec ça. Moi, je pense qu'ils vont se replacer, mais il n'y a pas de doute que c'est quand même très, très impressionnant de ce côté-là. Dans l'Ouest, quand je pense aux équipes de l'Ouest, pour moi, une des peut-être grosses déceptions, c'est Dallas.
Oui.
Je m'attendais après l'an dernier de les voir ce qu'on fait en séries éliminatoires, de pousser Saint-Louis qui a gagné la coupe jusqu'à un 7e match en prolongation. Je m'attendais à beaucoup plus de leur part là, en début de saison. Côté surprise, pour moi, c'est les deux équipes canadiennes, Edmonton et Vancouver,
oui.
Qui surprennent. Écoute, Vancouver, là, 9 victoires, 3 défaites, 3 nuls, ou 3 défaites en prolongation, je m'excuse. Je pense pas qu'il y a personne qui avait vu ça venir. Travis Green fait de l'excellent travail de ce côté-là. Je suis content pour lui. J'ai eu la chance de jouer avec lui à Phoenix à mes débuts. De le voir là, de le voir comme entraîneur-chef. Ça me faisait rire parce que c'est un joueur qui donnait des mots de tête aux entraîneurs.
Ah oui?
Fait que de le voir aujourd'hui comme entraîneur, ça me fait rire beaucoup. Mais je pense qu'il a appris plusieurs trucs là, au cours des années. Donc, tu peux pas lui en passer une à lui. Là.
C'est peut-être qu'il pensait être capable de déjà coacher le club à ce moment-là, Daniel. Je sais pas, quand tu jouais.
Ah, écoute, lui, là, il donnait des mots de tête puis il trichait beaucoup sur la glace.
Oui.
Il ne suivait pas les systèmes de jeu, mais il était très, très talentueux. Donc, c'est ça pour moi de le voir aujourd'hui, comment est-ce qu'il rendait la vie dure aux entraîneurs. Puis là, de le voir lui comme entraîneur aujourd'hui, c'est ça qui me fait rire beaucoup.
Je pense à Vancouver et je pense à Elias Pettersson, 5e choix de son année de repêchage en 2017. Avant lui, Nico Hischier, Nolan Patrick, qui est chez vous à Philadelphie, Miro Eskinen, qui est à Dallas, et Kale Makar à Colorado. Tous des bons joueurs, mais tu penses-tu que si le repêchage avait lieu demain avec tout ce qu'on sait, que ça se déroulerait dans le même ordre?
Non, pas du tout. Je pense que. Puis tu sais, dans ce temps-là, cette année-là, le consensus c'était que 1 et 2, là, c'était soit Ishier ou Patrick. Il n'y avait personne d'autre dans leur classe. C'était les deux à part. Puis quand on les regarde, pour moi, là, dans ce top 5-là, les trois meilleurs joueurs sont numéro 3, 4 et 5 qui sont sortis au repêchage. J'aurais une décision très, très difficile à choisir entre Eskanen, Makar ou Peterson, je l'avoue, là, aujourd'hui. Les trois joueurs, pour moi, m'impressionnent beaucoup. Puis c'est des joueurs à l'entour desquels tu peux bâtir le futur d'une équipe. Fait que, écoute, je pense pas qu'il y a de mauvaises décisions là, dans aucun des trois. Malheureusement, il y a encore du temps pour Ishir et Patrick de se replacer, mais ces trois-là là, ont vraiment sorti fort là, depuis ce repêchage-là.
C'est vraiment encourageant, puis c'est sûr que quand tu regardes la position de classement des Canucks de Vancouver, tu dois faire un lien direct avec les performances de Peterson. Le Canadien, hier, alignait trois recrues. Et si Kotkaniemi devait s'ajouter à l'alignement sans qu'on retranche un Poehling ou un autre, le Canadien pourrait aligner quatre recrues dans un prochain match, peut-être demain contre Philadelphie ou prochainement. Tu sais que Poehling a joué son premier match cette saison hier. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as vu des recrues du Canadien dans ce qui t'a été possible de voir, Daniel, jusqu'ici?
Des recrues ou juste de Poehling en général?
Des recrues, Suzuki, Fleury, Kotkaniemi et Poehling qui, lui, ben, a juste joué un match.
Ben, écoute, de nos jours, on voit, tu sais, les recrues arrivent. Il y en a plus de, premièrement, il y en a de plus en plus. Les joueurs sont là de plus en plus tôt dans leur carrière. Mais il ne faut pas oublier que pour n'importe quel jeune, il va avoir des hauts et des bas. On le voit notamment avec Suzuki, il a connu des matchs exceptionnels, puis il a connu des matchs très, très moyens. Puis je pense que ça va être le cas pour pas mal tous les joueurs, là, pas mal tous les jeunes en général, ils ont des hauts et des bas, donc ça me surprend pas. Dans le cas de Poehling, j'ai pas eu la chance de l'étudier autant dans le match d'hier contre Boston.
Il y a à peine joué 10 minutes.
Ouais, puis j'ai vu qu'il avait bloqué un lancer avec sa tête aussi, donc ça n'a pas dû faire du bien trop de ce côté-là.
Non.
Mais c'est un peu la même chose. T'sais, lorsqu'il avait marqué 4 buts l'année passée à son premier match, là, c'est dur de répliquer puis de revenir puis de continuer sur cette lancée-là. Il va falloir être patient avec lui. Ça va être un bon joueur à long terme pour le Canadien, tout comme les autres jeunes, mais il faut être patient avec ces jeunes-là.
Kotkaniemi a été ennuyé par une blessure à l'aine, a raté les deux derniers matchs, pourrait jouer demain, a fait le voyage avec l'équipe. Son retrait de l'alignement a été causé par une blessure, mais avant même qu'on sache qu'il était ennuyé par cette blessure, on discutait de la possibilité de le retirer de l'alignement ou peut-être même de l'envoyer, je parle nous là ici des médias, pas l'équipe, peut-être à Laval, comme Mété l'an passé, jouer quelques matchs puis revenir avec plus de confiance. Et je te demande, toi qui as dû vivre des séjours dans la Ligue américaine avant de t'établir officiellement puis de façon permanente dans la Ligue nationale, est-ce qu'il faut faire attention tant que ça au moral, à l'ego, à la confiance d'un jeune homme qui a déjà joué une année dans la Ligue nationale avec l'idée de dire « Hey, on aimerait ça que tu ailles jouer à Laval dans la Ligue américaine. » Est-ce que tu serais prudent avec ça, toi?
Moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Des fois, ça peut être un bon réveil aussi. Mais faut pas oublier, tu sais, dans le cas de Kotkaniemi, tout a bien parti l'an dernier pour lui. Il y avait pas de pression. Il y avait pas de pression de faire l'équipe. Il y avait pas de pression de performer. Puis quand le camp s'est amorcé, par la suite, là, tu t'enlignes sur une aire d'aller, puis les choses s'enchaînent, puis ça va bien. C'est facile de continuer. Là, tu reviens pour ta deuxième année, puis là, il y a des attentes. On s'attend à ce que tu produises plus que l'année précédente. On s'attend à ce que tu aies un plus gros rôle, plus de responsabilités dans l'équipe. Puis ça, des fois, c'est pas facile de gérer là, cette pression-là. Moi, ce que je ferais, probablement que j'aimerais ça lui donner quelques matchs dans les mineurs, juste pour le calmer, puis lui donner la chance de jouer beaucoup, beaucoup de minutes. Tu l'envoies à Laval, puis tu lui donnes la chance de jouer 20-22 minutes pendant quelques matchs. Des fois, ça peut être bon pour son développement, ça peut être bon pour, surtout s'il peut trouver une façon de créer de l'offensive, puis de lui donner de la confiance avant de le ramener à Montréal. Il n'y a pas de doute qui a sa place avec le Canadien de Montréal. Mais des fois, avec un jeune comme ça, que tu peux envoyer des mineurs, ça vaut peut-être la peine là, de lui donner cette chance-là de retrouver ses allures là, qu'il y avait l'an dernier.
Toi, personnellement, comment tu réagissais quand on te disait, Daniel, tu dois aller dans la Ligue américaine?
Ah, écoute, j'ai eu la chance de le vivre à maintes reprises. C'était pas facile. Au début de ma carrière, c'était un peu plus facile parce que je comprenais. Mais quand là, tu arrives à ta troisième et ta quatrième année, dans la ligue, tu veux jouer, tu veux avoir la chance de rester. Donc, c'est difficile. Mais je t'avoue qu'à mes premières années, là, surtout ma première ou deuxième année, je comprenais très bien ce qui se passait. Ça faisait partie de mon apprentissage. Je pense que c'est encore facile à ce stage-là. de vendre l'idée à un joueur que pour son développement, ça va être mieux. Mais là, c'est sûr que quand tu attends plus longtemps, tu arrives à ta troisième et quatrième année, là, c'est plus dur de vendre l'idée aux jeunes joueurs.
Dirais-tu que d'aller faire des séjours dans la Ligue américaine a fait de toi le joueur que tu es devenu dans la Ligue nationale ou tu aurais pu te passer de bien des matchs que tu as joué en trop dans la Ligue américaine?
Écoute,
c'est une pas pire celle-là.
J'aurais pu me passer de quelques-uns. Par contre, quand je regarde en arrière, là, je réalise que c'est ça qui m'a aidé à forger mon caractère. C'est ça qui m'a poussé à me réveiller puis à accepter un moment donné que c'était pas les gens alentour de moi qui étaient le problème, mais que je devrais me regarder, que je devais changer certaines choses de mon jeu. Quand ça arrivait les premières fois, je me disais j'ai pas la chance de jouer avec les bons joueurs, j'ai pas la chance de jouer sur l'avantage numérique, j'ai pas la chance de faire ci ou de faire ça. Mais après, à un moment donné, là, quand ça continue d'arriver, il y a quelqu'un qui m'a fait réaliser que je devais commencer à me regarder dans le miroir. Donc, de ce côté-là, ça a été une bonne chose pour moi, puis ça m'a donné la chance d'avoir une longue carrière dans la Ligue nationale. Mais ça dépend, c'est pas tout le monde qui va le prendre de la même façon. Donc ça là, c'est là que ça devient très très dangereux. Le plus longtemps que tu attends, quand les joueurs sont à leur troisième, quatrième année professionnelle, c'est plus difficile là, de les convaincre d'aller passer du temps dans les mineurs.
Daniel, sur une note un peu plus légère, t'as vu, je sais que ça remonte il y a quelques jours, mais j'ai pas eu l'occasion de t'en parler. T'as vu le but de Svechnikov là, qui a scoopé la rondelle en quelque sorte, là, un peu comme s'il maniait un bâton de crosse pour marquer son but l'autre jour. Es-tu d'accord avec ce type de but-là? As-tu déjà été tenté de l'essayer? Parce que on a vu ça fait au-dessus d'une vingtaine d'années pour la première fois. Puis avant que Svechnikov le fasse, j'étais surpris qu'on n'en ait pas vu avant ça dans la Ligue nationale.
Ouais, écoute, j'ai essayé, je me suis pratiqué à essayer de faire ça à quelques reprises, mais j'avais pas les mains pour faire ça.
Ah non?
Non, écoute, c'est pas facile à faire, ça prend beaucoup de pratique. J'ai pratiqué d'autres aspects de mon jeu plutôt que ceux-là, mais ça m'impressionne encore de voir des buts comme ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça, qu'on ramasse la rondelle. Les gardiens, écoute, les gardiens sont rendus tellement bons. Si on peut les surprendre des fois avec un petit jeu comme ça, pour moi, là, j'ai aucun problème à ce qu'on accepte des buts comme certains joueurs ont été capables de le faire. Parce que c'est pas tous les joueurs qui sont capables de faire ça. Il y en a seulement quelques-uns là, dans la Ligue nationale. Donc, si t'es capable, moi, j'ai aucun problème.
Ah, ben c'est bon, Daniel. Et je voulais utiliser ce sujet-là pour te poser la question suivante, et ce sera la dernière. Est-ce que tu trouves que les équipes allouent assez de temps aux joueurs pour le développement de leurs habiletés individuelles? Ou toi-même, ou peut-être aux joueurs de le faire sur leur bord, dans le temps de glace en extra, toi, est-ce que tu recommandes ça à ton club de la East Coast League? Parce que, tu sais, veux pas, même un gars de quatrième trio, s'il développe ses habiletés, à un moment donné, il va être capable de faire un jeu qui peut faire la différence entre gagner un championnat et le perdre.
Puis si on regarde aussi, là, plusieurs équipes ont maintenant des entraîneurs pour le développement des habiletés personnelles. On voit ça de plus en plus. Je sais que la majorité des équipes de la Ligue nationale les ont. Même dans la Ligue américaine, on voit ça. Nous autres, le Wolfpack de Hartford, qui en ont un, nous l'envoie de temps en temps. Leur entraîneur de développement personnel pour les joueurs à quelques reprises là, au Maine. Donc, on voit ça, c'est plus courant aujourd'hui là, que ça l'a été il y a une dizaine, une vingtaine d'années dans la Ligue nationale. Mais encore une fois, les entraîneurs, les équipes passent la pratique pour le développement du système. Il n'y a pas beaucoup de temps aux aspects personnels. Pour les joueurs, soit qu'ils embarquent sur la patinoire avant la pratique ou qu'ils restent après pour travailler là, sur leurs habiletés personnelles. Donc ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui passent beaucoup de temps. Il y a d'autres joueurs qui sont pas intéressés. Donc ça, là, c'est très, très personnel de ce côté-là.
Ben Daniel, c'était bon de t'entendre à l'émission ce soir. Un gros merci. Et puis, on se reparle très bientôt, j'espère. J'ai hâte de voir ça, Flyers Canadien, demain.
J'ai bien hâte, moi aussi, ouais. Puis je vais être présent au match. Peut-être qu'on pourrait s'en reparler par la suite.
Ben avec plaisir. C'était dispo vendredi. On s'organise ça, Dan. Merci bien gros.
Ça marche.
OK, bye-bye.
Salut, Mario.
Une excellente soirée. Bye-bye.